BW. Droits et libertés.
Une femme, souvent vieille, inquiétante, une femme ou un enfant qui font peur, que la communauté rejette à cause d'une apparence ou parce qu'on leur prête des pouvoirs magiques, des pouvoirs maléfiques qu'ils peuvent utiliser contre les autres. Une femme ou un enfant, victime de persécutions depuis des siècles, parfois lynchée, torturée, assassinée presque partout dans le monde. Des personnes qu'on appelle sorcières. C'est notre thème cette semaine avec un volet historique, mais aussi une initiative bien actuelle, lancée par une ONG allemande pour attirer l'attention sur le sort des sorcières et les protéger de la mort. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. En Allemagne, on les appelle Hexen. Quand on parle de sorcières, on pense à un monde nocturne, inquiétant, à des rituels diaboliques dans des forêts sombres, à des femmes très belles ou très vieilles, mais souvent très méchantes, les sorcières de contes de fées ou celles victimes de persécutions il y a bien longtemps.
Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison.
Donc ça, c'était la sorcière de contes de fées de Blanche-Neige. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'histoire des vraies sorcières en Allemagne, mais commençons par le début. Si nous avons décidé de parler de sorcières cette semaine, c'est qu'une ONG catholique basée en Allemagne, Missio, propose d'instaurer cette année pour la première fois le 10 août comme journée internationale contre les persécutions et la chasse aux sorcières. À mes côtés pour en parler, Charlotte Müller, bonjour.
Bonjour.
Alors Charlotte, vous vous êtes intéressée au sujet. Est-ce que vous confirmez d'abord les stéréotypes sur les sorcières que je viens d'énumérer ?
Et oui, c'est vrai qu'avant de me lancer dans mes recherches sur le thème du jour, pour moi, le cliché de la sorcière, c'était vraiment une femme rousse qui prépare des potions magiques dans un vieux chaudron et peut-être une femme avec un rire méchant.
Un rire méchant un petit peu comme celui-là ?
Oui, mais en fait, le sujet est grave.
Oui, parce qu'en Europe, il y a eu des dizaines de milliers de victimes de la chasse aux sorcières entre le Moyen-Âge et le 19e siècle.
Certaines estimations vont même jusqu'à avancer un nombre à 6 chiffres. En Europe, la chasse aux sorcières se développe vraiment au début du 15e siècle. Depuis le 12e déjà, l'Église catholique romaine fait face à de nombreuses critiques, ce qui aboutira au 16e siècle à l'essor du protestantisme. Bref, l'Église veut asseoir son autorité et elle combat avec force dans tous ceux qu'elle considère comme hérétiques.
Et les tribunaux de l'Inquisition sont là pour juger notamment des cas de sorcellerie avec des pratiques de torture féroces.
Oui, parce que l'Église veut éviter les recours à la justice populaire et au lynchage. À l'époque, la pensée magique est encore très présente dans le quotidien des Européens. Les Allemands aussi croient encore beaucoup à la sorcellerie et les femmes sont les premières victimes de ces accusations.
Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière.
Et est-ce que ces femmes, puisque ce sont en majorité des femmes qui étaient accusées de sorcellerie à l'époque, ont des points communs ?
Alors souvent, ce sont des femmes un peu en marge de la société, soit des vieilles femmes, des veuves qui sont considérées comme des poids pour les autres parce qu'elles ne sont plus en âge de se reproduire et donc d'apporter quelque chose à la communauté, ou alors des jeunes femmes mais qui ne sont pas mariées ou pas mères, qui sortent du coup du cadre strict qui définit les rôles des femmes dans la société de l'époque. Une femme jeune non mariée du point de vue de l'Église peut rapidement être considérée comme un objet de tentation diabolique.
Une tentation d'ordre sexuel pour les bons chrétiens.
Exactement. D'ailleurs, souvent, durant le procès des sorcières, les juges cherchent la marque du diable sur leur corps. Le professeur d'histoire Wolfgang Biringer s'est intéressé au sujet. Il enseigne l'histoire moderne à l'université de la Sarre en Allemagne et il explique que la chasse aux sorcières s'est poursuivie jusqu'au XVIIe siècle, mais avec une intensité fluctuante.
Dans la plupart des régions, après un procès en sorcellerie, on se rendait compte de la grave erreur commise. Alors souvent, la prochaine exécution n'avait lieu que 30 ans plus tard, quand les souvenirs s'étaient estompés.
Ce qui peut paraître étonnant vu d'Allemagne, c'est que Wolfgang Biringer est convaincu que le nombre de victimes de la chasse aux sorcières est encore plus important au XXe siècle que dans les siècles passés.
Regardons par exemple les chiffres en Tanzanie publiés par des organisations humanitaires sur place. Environ 40 000 personnes ont été assassinées entre 1960 et 2000. Et par assassiné, je n'entends pas le meurtre arbitraire. Même si la sorcellerie n'est pas identifiée comme crime dans le droit pénal tanzanien, il y a des tribunaux locaux qui condamnent certaines personnes à mort pour sorcellerie.
Et d'après vos recherches, Charlotte, la chasse aux sorcières sera encore une réalité dans au moins 36 pays du monde, en Afrique, en Asie de l'Est et du Sud-Est, en Amérique latine notamment.
Oui, tout à fait. Et les raisons invoquées pour accuser quelqu'un de sorcellerie ont peu changé au fil des siècles. Elles sont liées au malheur qui frappe les individus et les groupes de personnes. La mort soudaine d'un proche, les maladies, l'avidité ou bien la jalousie, la haine, la guerre ou encore les mauvaises conditions météorologiques, les mauvaises récoltes, la liste est très longue.
Et vous avez pu joindre une Congolaise qui, elle, vient en aide aux victimes de ces persécutions.
Oui, c'est vrai, elle s'appelle Thérèse Mema Mapendi.
Parlant de la sorcellerie en Afrique, c'est un thème qui est nécessaire. Nous avons l'impression que le monde essaye de minimiser ce thème, alors que c'est un thème qui cause plusieurs conséquences sur plusieurs vies.
Alors, Thérèse Mema Mapendi est l'une des partenaires de l'ONG Missio, dont l'Est de la RDC. À Bukavu, elle a mis en place le centre Olamé, où avec des animatrices sociales, elle s'occupe des femmes et des enfants traumatisés par les conflits dans la région. Elle écoute les histoires des victimes de violences sexuelles et elle les aide à retrouver leur place dans la vie, ce qui est très important. Et comme objectif principal, elle s'est fixée la transformation des conflits dans la communauté et la réconciliation des familles, parce que souvent les familles ont été séparées à cause de violences sexuelles ou bien d'accusations de sorcellerie.
On a commencé à enregistrer plusieurs cas des enfants issus du viol qui ne sont pas acceptés dans les familles, plusieurs cas des enfants nés hors mariage qui sont soit obligés d'aller vivre chez l'un des parents et dont certains des parents n'acceptaient pas. Et donc, pour justifier l'exclusion de l'enfant dans la famille, il faut l'accuser de sorcellerie. Et ces enfants nous viennent avec des plaies sur leur corps, en train de saigner, avec des brûlures, et ça fait très mal et ça choque quand nous recevons tous ces enfants là-bas.
Et il y a aussi parfois les pasteurs des églises du réveil qui soutiennent aussi que des enfants sorciers sont responsables des malheurs qui touchent les familles.
Ça peut être les maladies comme le VIH-Sida, la stérilité des femmes ou même la pauvreté. Là encore, les communautés cherchent des responsables à leur mot. Le problème est connu de longue date, mais la situation juridique est très très compliquée.
Si je dois me revenir à mes cours d'anthropologie, on nous a appris que la sorcellerie n'a pas d'autre mission. Sa mission principale, c'est de nuire. La loi congolaise, ici en République démocratique du Congo, ne reconnaît pas la sorcellerie comme une infraction parce qu'on n'a pas de preuves pour prouver que quelqu'un est sorcier ou qu'il ne l'est pas. Malheureusement, la société a développé de sorte de vengeance ou de justice populaire pour sanctionner des personnes qu'on croit appelées des sorciers. Et la plupart de ces personnes sont des jeunes filles dont l'âge varie entre 3 ans et 14 ans.
Et donc c'est pour que le monde n'oublie pas ces victimes d'aujourd'hui que Missio propose de leur dédier la journée du 10 août.
Selon Jörg Novak, qui est porte-parole de l'organisation catholique, la prise de conscience opère lentement. D'ailleurs, c'est un peu par hasard que l'organisation Missio s'est rendue compte à quel point la chasse aux sorcières avait toujours cours dans le monde.
Chez Missio, on a pu constater que les violations graves des droits humains sont légion dans de nombreux pays dans lesquels nous intervenons. Ces violations commises sont parfois justifiées par des accusations en sorcellerie de femmes, mais également d'hommes stigmatisés. Les sorcières n'existent pas. Ce qui existe, ce sont les accusations avec lesquelles on essaie de diaboliser les personnes, de les discréditer et d'en tirer un avantage.
Au centre de l'attention de Missio, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'ONG essaye d'y sensibiliser les enfants pour qu'ils osent remettre en question les préjugés de leurs aînés. Le travail éducatif dans les écoles et dans les villages est indispensable pour que cela fonctionne. Les projets soutenus par Missio visent aussi à une meilleure collaboration avec les autorités en place, c'est-à-dire avec la police et les tribunaux. Cela est d'autant plus urgent que jusqu'à présent, aucune procédure judiciaire ne peut être ouverte.
Ça veut dire que l'ONG détient des preuves de violation des droits humains en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais qu'elle ne peut rien faire devant la justice.
Effectivement, soumettre ces cas-là aux tribunaux locaux reviendra à mettre gravement en danger les partenaires de l'organisation et les survivants de sur place. Les communautés villageoises ne souhaitent pas que le procès soit rendu public.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On a les coupables, on a leur nom. On a des photos des coupables, on a des documents sans équivoque, mais pour l'instant, il n'est pas possible de réclamer justice.
Alors, pour briser le tabou, Monsieur s'est tourné vers l'ONU. La première journée de commémoration mondiale contre la chasse aux sorcières est un jalon important sur la voie du renforcement de la prise de conscience.
Mais paradoxalement, en Occident, en ce moment, l'image de la sorcière est en train de changer et même de devenir plus positive.
Et oui, certaines femmes se regroupent et déclarent même fièrement être les descendantes des sorcières, ces femmes victimes des préjugés car rejetées par la société. Et plusieurs mouvements féministes reprennent l'image des sorcières comme des icônes, aujourd'hui comme hier, du courage au féminin.
Merci beaucoup Charlotte Mulla aussi pour vos recherches et votre courage à vous. On se quitte en musique avec une très belle chanson d'Anne Sylvestre interprétée ici par Nathalie Doumar et Laetitia Isambert. Une sorcière comme les autres, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous y morcelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme